Bonsoir à tous. Donc, nous allons commencer cette conférence. Donc, je vais laisser aux invités le soin de se présenter très rapidement. À commencer par là-bas, Stéphane.
Bonsoir. 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 Bonsoir, je m'appelle Stéphane Burin, je suis game designer indépendant pour l'instant. Je suis consultant en game design et je travaille pour différents studios pour les aider à affiner leur studio de jeu, game design de jeux vidéo, pour affiner leur design.
Bonjour, je suis David, j'ai arrêté de boire il y a 3 minutes. sinon, je fais des jeux aussi, je travaille pour Ankama, j'écris des livres, je dessine et je fais des gâteaux.
Bonsoir, je suis Fabrice Collin, je ne sais pas très bien ce que je fais là. J'ai travaillé dans un magazine de jeux vidéo il y a longtemps. J'ai travaillé pour des boîtes de jeux vidéo il y a longtemps et maintenant j'ai écrit des livres et je fais des scénarios de bande dessinée aussi parfois.
Et bonsoir, je suis Jean-Philippe Depote. Hein, donc moi je suis romancier maintenant, mais j'étais il y a 5 ans, j'ai été directeur de production de Monte Cristo, un studio parisien qui n'existe plus maintenant malheureusement. Et puis, en fait, voilà, j'ai tout plaqué il y a 5 ans et j'ai quitté le jeu vidéo il y a 5 ans. Enfin, je me rappelle encore.
Voilà, et donc, la thématique que nous souhaitons aborder dans cette conférence ce soir, c'est les difficultés peut-être que l'on peut mettre en parallèle pour les auteurs de science-fiction ou les créateurs de jeux vidéo à acquérir la confiance de leur public, à faire en sorte que les gens puissent entrer dans leur univers, que ce soit un univers de roman ou appréhender la pratique d'un jeu. Est-ce que peut-être Stéphane va pouvoir ouvrir pour nous présenter un peu sa théorie sur le sujet?
Merci.
Vas-y, Stéphane.
Merci, Florent. Oui, en fait, je suis un peu l'instigateur de ça, donc je me sens un peu coupable et il faut que je me fasse pardonner. Oui, ce concept de confiance, il est assez important dans le jeu vidéo parce que le joueur, lorsqu'il joue, il doit apprendre à jouer au jeu et il y a une théorie qui est maintenant assez bien admise dans le milieu, que c'est ça qui est fun. Apprendre à jouer, maîtriser les différents comportements du jeu et devenir bon à ce jeu. Une fois qu'on est bon, ben, le jeu devient moins intéressant. Mais pour apprendre, il faut un certain degré de confiance faire en sorte que le joueur va penser que le jeu, par exemple, va le laisser apprendre sans le pénaliser, qu'il y a un sens dans ce jeu et qu'il va pouvoir faire des choix intéressants. Et je pensais qu'il y avait un parallèle entre ça et la difficulté d'approcher la science-fiction quand on n'est pas familier du langage de la science-fiction, des protocoles de lecture de la science-fiction. Il y a beaucoup de choses, quand on lit un roman de science-fiction, il y a beaucoup de choses qui sont des règles de lecture. On fait confiance à l'auteur, il va expliquer ce qu'il y a, les trucs assez incompréhensibles, les termes bizarres, ou alors s'il ne les explique pas, ce n'est pas grave. Pour que le lecteur, puisse continuer à lire un livre, il faut qu'il ait cette confiance. Et je ne sais pas trop comment on l'acquiert, autrement qu'en lisant de la SF et en faisant l'expérience par soi-même de dire « Ah ben, j'ai terminé le livre et à la fin, ça faisait sens. »
J'aurais juste une question pour l'auditoire, en fait. Est-ce que les gens qui sont familiers du jeu vidéo, peuvent lever la main, qu'on sache si on a beaucoup de joueurs dans l'assistance? Ah, c'est pas la totalité. et donc, évidemment, j'imagine que si vous êtes ici aux Utopias, c'est que tout le monde est familier et lit de la science-fiction ou de la fantasy. Ça a l'air d'être le cas.
Et est-ce que vous connaissez des gens qui ont des problèmes avec la SF dans votre entourage?
Qui ne joue pas? Bon, c'est vous qu'on a envie d'entendre.
Et pourquoi? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur le pourquoi de ne pas réussir à rentrer dans le jeu ou de ne jamais avoir essayé de jouer aux jeux vidéo? Non, personne? Vous avez levé la main. Donc vous ne jouez pas, pourquoi?
J'ai eu joué il y a longtemps, mais je ne joue pas parce que pour moi l'écran, j'ai déjà l'écran d'ordinateur, l'écran du téléphone portable, donc si je peux passer autre chose que de passer ma vie devant un écran, Voilà, en fait, c'est la principale raison, mais il y a des jeux qui me semblent... Enfin, que j'ai eu plaisir à jouer il y a quelques temps, mais maintenant, j'ai un peu décroché, quoi. Voilà.
Donc là, c'est plus une barrière du média, en fait. Pardon. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur le sujet ?
Non, moi, c'est juste un manque de temps.
Bon, pour personne, c'est une barrière. Il y a une barrière à l'appréhension d'un jeu, ou alors est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut avoir une barrière à l'appréhension de la science-fiction, par exemple ? Est-ce que vous connaissez des gens ? Non ? Bon, vous avez de la chance. Donc manifestement, en tout cas dans l'auditoire, il n'y a pas de problème au niveau de l'appréhension. Ça veut dire que tout le monde accorde ici cette confiance dont tu parlais à l'auteur ou au créateur de jeux vidéo.
Oui, on n'a pas un échantillon très représentatif de la population ici dans cette pièce. Mais je pense que si vous aimez la SF, vous êtes prêt à attendre des explications, vous êtes prêt à apprendre les règles d'un monde, si c'est un monde de hard science, est-ce qu'on vous explique pourquoi c'est important qu'un pulsar marche comme ça, ou que cette théorie du voyage dans le temps marche comme ci. Et c'est rare, sinon tout le monde lirait de la SF.
Est-ce que d'un point de vue auteur, donc là je vais plutôt m'adresser à Jean-Philippe ou à Fabrice, quand vous écrivez un roman, il y a une problématique, parce que est-ce que vous avez en tête la problématique de faire accepter votre univers au lecteur ?
Bon, j'attaque. En fait, moi j'écris pas la science-fiction, hein, j'écris des livres fantastiques dans un domaine historique. Hein, et en fait, le problème qui se pose, c'est que moi j'aime beaucoup l'histoire, je lis beaucoup de livres d'histoire, mais j'aime pas les romans historiques parce que souvent dans les romans historiques justement on présuppose que le lecteur est assez érudit, connaît plein de choses sur la période, et justement c'est une des difficultés que moi je me suis posée, c'était de présenter des époques historiques pas forcément faciles, pas forcément connues de tout le monde, mais dans lesquelles le lecteur va se plonger assez rapidement, justement en essayant de gommer tous les présupposés historiques et qui rapprochent un peu de ce problème là quoi. Et en fait, quand j'étais dans le jeu vidéo et que je bossais chez Monte Cristo, en fait, en termes de gameplay, on avait ce souci-là aussi, c'est-à-dire de s'arranger, jamais trop innover, quoi, que la marge d'innovation d'un jeu soit suffisamment faible pour qu'il y ait déjà plein de choses que les gens connaissent. Quand on leur dit, vous allez jouer à un RTS, on sait déjà quels sont les mêmes au niveau des commandes, quels clics et quels... On va toujours utiliser F10 pour le menu parce que ça a déjà été tellement utilisé que c'est pas la peine d'innover là-dessus. Et on innove juste sur la partie qui nous intéresse. Et dans le roman, c'est un peu pareil. Moi, c'est le point de vue que j'ai sur les romans historiques. Il y a quand même quelques personnages historiques qu'il faut utiliser, quelques situations historiques, quelques événements historiques avec lesquels on veut jouer. Donc ceux-là, effectivement, on va prendre la peine de demander un petit effort au lecteur pour rentrer dedans. Mais surtout, il faut gommer tout le reste, tout ce qui est purement accessoire. Il faut résister à la tentation de montrer son érudition en allant balader le lecteur dans les rues de Paris, en lui montrant toutes les merveilles, toutes les choses merveilleuses qu'on a apprises en lisant des livres d'histoire, parce que ça va le décrocher très rapidement.
Si je peux réagir, c'est... Et après, il faudra que tu dises un truc quand même. Juste pour réagir sur ce que tu dis, c'est... Quand je parle d'apprendre dans un jeu vidéo, il y a trois types de choses qu'on peut apprendre. On peut apprendre à jouer au jeu, à l'utiliser. Et en fait, c'est ça. C'est qu'une fois qu'on a dit que F10, c'est le menu, t'as pas envie de changer parce que t'as pas envie que les gens réapprennent à jouer à ton jeu parce que c'est un effort qui est pratiquement insurmontable. Ensuite, t'as apprendre les règles de ton jeu. Si c'est un RTS, en gros, tout le monde connaît comment ça marche un RTS, un jeu de stratégie en temps réel. Et donc, tu peux innover que dans la dernière chose à apprendre, qui est quel sens que tu donnes à ton jeu, qu'est-ce que tu veux raconter comme histoire, quelle expérience tu veux que ça traduise. Mais pour moi, je pense que c'est une erreur. Le plus gros succès d'il y a 2 ans de jeux vidéo, c'était un jeu de SF qui innovait dans les règles, et c'est Portal. Mais comment ils ont fait pour réussir ce truc complètement fou, c'est que tout le jeu, c'est l'apprentissage de ce nouveau système de téléportation. Et l'intégralité, ce n'est que ça. Alors ouais, c'est un risque, c'est un super risque, mais pour moi, c'est la manière d'intégrer cette notion d'apprentissage et de découverte.
dans le roman, on a une difficulté qu'on n'a pas forcément dans le jeu vidéo. Je parlais de science-fiction et de fantasy parce que pour le sujet qui nous occupe, à la limite, les différences ne sont pas primordiales. Vous avez des mondes, je dirais, liés à notre monde à nous. Par exemple, Harry Potter, tout le monde comprend tout de suite parce que globalement, c'est notre monde, sauf qu'en plus, il y a une école de sorciers, quoi. Le Seigneur des Anneaux, c'est déjà autre chose. Vous êtes parachuté dans un monde dont vous ne connaissez rien au départ. Alors, ok, il est peut-être inspiré du folklore, de la mythologie. Il y a toujours, de toute façon, des sources d'inspiration plus ou moins identifiables. Mais en gros, vous ne connaissez pas assez terra incognita, quoi. Et dans le jeu vidéo ou dans le cinéma, vous avez quand même le support de l'image qui favorise une immersion assez fluide et immédiate. Dans le livre, non. Les éditeurs reçoivent énormément de manuscrits, notamment de fantasy. Il y en a même qui disent « Stop, vous ne nous en envoyez plus. » Les écrivains apprentis, on ne veut plus parce que c'est que de la merde, quoi. Et pourquoi c'est que de la merde ? Parce que les gens pensent que la fantasy, c'est inventer des mondes. Or, moi, par exemple, j'anime de temps en temps des ateliers d'écriture avec des collégiens. Ouais, mais moi, monsieur, j'ai pas d'imagination, etc. Pop, on va voir ça. Et au bout de 2-3 séances, ils ont notre problème, c'est qu'ils ont trop d'imagination. Évidemment que tout le monde a de l'imagination, tout le monde a un inconscient, tout le monde rêve, etc. C'est juste un verrou à débloquer. Ensuite, une fois que vous avez débloqué ce verrou, ben vous avez tout ce monde qui est en vous, que vous voulez faire partager aux gens, que vous voulez domestiquer, etc. Et ça, c'est super difficile. C'est-à-dire que ce qui n'est pas compliqué, c'est d'inventer un monde. Ce qui est compliqué, c'est de le donner au lecteur et de développer une intrigue en plus. Ce qui fait notamment de la fantasy une littérature super trompeuse. Parce que quand vous en lisez, ça a l'air super facile à écrire, et quand vous en écrivez, vous êtes confronté à plein de problèmes, je dirais, stratégiques, de décisions, à quelle personne je parle et comment je décris le monde, etc., parce que les gens ne le connaissent pas. J'ai créé un monde super, mais comment je le fais connaître au lecteur ? Donc il y a toujours des gimmicks du genre deux types qui sont dans une forêt et l'autre, ah tu vois cette forêt, ben, est-ce que tu savais que blablabla, blablabla, et là on peut mettre un paragraphe où on explique le monde, mais on ne peut pas trop faire ça. Et donc, il faut distiller les informations de façon très progressive. Généralement, c'est pour ça qu'on a souvent des romans initiatiques, parce que finalement, le lecteur découvre le monde en même temps que le personnage principal, qui est une sorte de benêt qui ne comprend rien à ce qui se passe. Et il va découvrir, en acquérant de l'expérience, le monde. Et là, on se retrouve un peu dans un truc de jeu vidéo aussi, où finalement, on est les yeux du personnage principal. Et quand on fait ça, c'est facile. Mais d'écrire comme ça, sortir un monde ex nihilo et développer une histoire en même temps, c'est vraiment pas de la tarte en roman.
Moi, je vais rebondir directement là-dessus. Je vais parler près du micro. La grande difficulté que nous avons dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a trop d'informations. On a une information visuelle colossale et on a une information technique colossale. C'est-à-dire que l'apprentissage des talents qui nous permettent d'interagir avec ce monde est tellement découpé et tellement fragmentaire qu'on en arrive à mâcher intégralement l'apprentissage du monde et l'initiation des gens. Ce qui fait que, autant avec des mots, même si on découpe cette information et cet apprentissage d'une manière savante, poétique, on a toujours la place du lecteur qui va pouvoir combler les manques et combler les trous. En jeu vidéo, on n'a pas ces trous-là. En jeu vidéo, tous les trous doivent être comblés. Et c'est même une fonction principale de la production. C'est qu'à partir du moment où il y a un trou, le jeu, il n'est pas bon. Moi, je me suis retrouvé à refaire un tutoriel, mais je ne sais pas, 150 fois, au cours du développement, pour être sûr que le joueur, il a bien conscience que tous les gestes qu'il fait dans ce monde soient la conséquence du geste d'avant, et que l'un après l'autre, on perlait comme ça, ça nous permet d'exister dans ce monde. Alors, une fois qu'on a maîtrisé cette initiation, on arrive à, j'ai toutes les règles, maintenant qu'est-ce que je fais dans le monde ? Est-ce que le monde est suffisamment intéressant ? Mais le problème, c'est que ce monde, il ne peut pas être suffisamment intéressant puisqu'il est, il est retenu. La retenue qui est nécessaire en fantasy pour pouvoir créer de l'émerveillement n'est pas possible. Cette retenue, elle est ouverte dès le début. Ce qui fait qu'en fait, on arrive dans des jeux et dans des mondes qui sont totalement acquis, tout est acquis. La place de l'émerveillement n'est plus, il n'y a plus de place pour l'émerveillement. Il y a plus. Et pour moi, l'essentiel de la fantaisie, de la science-fiction en écriture, c'est cette notion d'émerveillement. C'est-à-dire la capacité que l'homme va avoir à combler les manques en se disant oh, mon Dieu, mais en fait, mais si peut-être, peut-être que. Il n'y a pas de réponse. Ou alors il y a une réponse contextuelle avec des petites touches comme ça poétiques. Mais dans le jeu vidéo, tout est donné, toutes les réponses sont données, tout est déjà là, en fait. Quoi. Parce que c'est une. Parce que c'est un média jeune peut-être, parce que c'est un média qui a déjà été vendu d'une manière absolument horrifique et dont la démarche de création a été pompée sur Hollywood, a été pompée sur tout un tas de trucs, alors que l'écriture d'un jeu vidéo n'a rien à voir avec l'écriture d'un film ou l'écriture d'un livre. Ce sont des choses qui sont complètement différentes. Et on en arrive en fait à des jeux qui ne prennent pas de risques au niveau des contextes. Et je sais qu'avec Stéphane, on en a beaucoup parlé. Je vais vous donner un truc tout bête. Le dernier salon que j'ai fait à Gamescom à Cologne, il y a toute une section jeu online. Bon. Vous voyez les écrans, et alors là, c'est effarant, c'est le même jeu. Mais c'est le même jeu partout, c'est les mêmes mondes. Alors vous prenez WoW, c'est même Torchlight. Enfin, je veux dire, des joueurs de Torchlight ici, excusez-moi, mais donnez-moi la différence entre le monde de Torchlight et le monde de WoW. Quoi. Enfin, à part dire, ah, les elfes, ils ont les oreilles carrées. C'est les mêmes mondes, c'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes définitions. Alors, je veux bien comprendre, comme le disait monsieur Jean-Philippe, c'est ça ? Jean-Louis ? Jean-Philippe. Excusez-moi. Qu'au niveau du gameplay, on ne peut pas prendre trop de risques, parce qu'on a une population à éduquer. Et je dis ça sans être dénigrant, hein, qu'on est obligé de faire des trucs avec des points d'XP. Bon, ok. Mais. On peut éventuellement tenter de mettre ça à l'épreuve d'un nouveau contexte, comme à un moment donné, on a fait sur Planescape, par exemple. Bon, on a pris le truc de Baldur's Gate, on l'a foutu dans Planescape, et ça marchait aussi bien, quoi. Il n'y a pas de problème. Bon. Pourquoi on ne fait pas ça ?
Ah si ?
Je vais te le dire. Ne parle pas de Kirby.
Je vais te le dire. Non, il y a... En fait, ça tient à ce que disait Fabrice sur le héros qui découvre le protagoniste innocent, c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on fait dans les bouquins. Ce qu'on fait dans les bouquins, ce qui est complètement génial, c'est que le protagoniste, en général, il est totalement innocent, il est totalement bené, comme tu as dit, mais à la grosse différence de ce qu'on peut faire dans le jeu vidéo, il est super compétent. C'est-à-dire que vous prenez Corwin, vous prenez Ender, vous prenez Harry Potter, vous prenez Neo dans Matrix. Ouais, ils sont tous innocents, ils ont tous un monde à découvrir. Mais à chaque fois qu'ils acquièrent une information, ils s'en imbibent et ils l'exploitent au maximum, ils comprennent le monde. Et donc, leur processus d'apprentissage est un processus initiatique. Dans un jeu de vidéo, c'est absolument pas possible parce qu'on serait obligé de le simuler. Et le joueur, c'est lui qui apprend. C'est pas le protagoniste, c'est pas son avatar qui apprend, c'est lui qui apprend. C'est le héros. Il est tout le temps en train de faire des trucs bien, mais moyennement bien, c'est tiède. Et en fait, il n'y a jamais aucun acte d'héroïsme. Il n'y a pas le moment où Bilbo va revenir lutter contre les araignées. Parce qu'il n'y a pas ces moments d'héroïsme, parce que tous les jeux sont conçus comme ça. Ils sont conçus pour qu'à la fin de chaque chapitre, tu aies vaincu les méchants, tu aies passé les pièges, tu aies trouvé le trésor, tu aies tué le boss. Et donc, il n'y a pas d'opportunité de faire cette caisse initiatique. Donc, on se retrouve dans des schémas qui sont très, très similaires.
Alors, c'est très juste, mais si nous voulons pouvoir restituer ces actes héroïques, alors on prend la fantasy, dans le jeu vidéo, il y a une règle qui est absolument terrible en développement, c'est on ne prend pas le contrôle du joueur. D'accord ? C'est-à-dire, à aucun moment, je veux que mon personnage il soit utilisé par le moteur pour faire quelque chose que je n'aurais pas voulu qu'il fasse. Genre, va protéger le petit enfant là, la gamin là, et avec ton corps. Moi, en tant que joueur, je m'en fous, je blasse tout ce qu'il y a, là, la mienne, elle crève, quoi. Je m'en fous. Bon. Mais moi, en tant que j'ai envie de poser à ce moment-là l'idée que ce personnage, il est un cas moral qui se pose, et donc je vais prendre son contrôle et lui dire, non, attends, joueur, tu restes de côté, je vais te prendre ton avatar, et je vais lui faire faire quelque chose que moi, j'ai envie de lui faire faire, en supposant que toi, tu vas comprendre que cette narration que j'intègre dans le jeu, c'est pour ton bien. C'est pour toi. Ça va te faire du bien à ton esprit, ça va te faire du bien, tu vas comprendre l'histoire, tu vas comprendre le personnage, tu vas comprendre la psychologie, etc. Bon. Le moyen de contourner ça, pour moi, il est très simple, et on en a déjà beaucoup parlé ces derniers temps, je crois, c'est d'arrêter de penser le jeu de vidéo en termes de narration. vraiment. Et il va falloir qu'on comprenne ça à un moment donné. Alors, je n'ai pas la solution immédiate. Et même moi, je fais des tutoriels, des tutoriaux, et je tombe là-dedans, quoi. Mais je pense qu'en allant dans cette direction-là, on va pouvoir commencer à comprendre ce qui définit un jeu vidéo par rapport à un livre, que ce soit un livre de SF ou un livre de fantasy. La narration du jeu vidéo, elle est propre au jeu vidéo. Donkey Kong, la narration de Donkey Kong, elle existe. C'est une narration qui est simple, qui est limitée par ce qu'on a à disposition pour jouer à Donkey Kong, pour faire Donkey Kong, mais elle est là, elle existe. Et moi, quand j'étais gamin et que je jouais à Donkey Kong, j'avais ma mère, je disais, attends, c'est génial, aujourd'hui, j'ai sauté trois tonneaux. C'est fou. C'est une narration. Bon, c'est pas très intéressant, c'est vrai, c'est sûr, j'aurais préféré, chevaucher un verre quelque part, ou bref. Mais bon, voilà, il se passe ça. Et il faut comprendre que la narration dans le jeu vidéo ne doit pas obéir à ces règles-là. Il faut que nous créions les propres règles du jeu, en fait. Et ça, c'est le gameplay. Alors, le gameplay et l'histoire, ça, c'est la grande tarte à la crème en ce moment, le stories gameplay. Comment faire pour que l'expérience de jeu soit l'expérience du joueur pur, sans compter sur un personnage véhicule qui va permettre d'avoir une espèce de psychologie à deux francs, je veux dire, GTA, le dernier GTA, ok, on joue un immigré, c'est super intéressant, politiquement, etc. On suit, on poignarde le gars, on se pose un cas moral, bon, bah, on enlève ça, ça marche aussi bien. C'est pas vrai, tout le monde s'en fout, quoi. C'est pas pour ça qu'on joue à GTA, quoi. Donc, le joueur, Stéphane l'a très bien dit, le joueur, c'est lui qui joue, c'est lui qui apprend. Donc, pour moi, le jeu vidéo, c'est une affaire de contexte. Et c'est en ça que ça rejoint la SF, la fantasy, c'est que le world model, c'est-à-dire la manière dont on va définir le monde dans lequel on évolue, que ce soit le monde réel, un monde imaginaire, un monde avec ses règles et compagnie, c'est ça la clé. Et c'est les outils qu'on met à disposition du joueur à l'intérieur de ce monde pour interagir avec ce monde et pour faire sens de ce monde, le sens que lui, il a envie d'y mettre et pas ce que nous voulons qu'il comprenne, là, c'est la clé. Mais là, on est en train de partir, quoi.
Est-ce que dans tout ça, par rapport à cette problématique d'acquisition de confiance du lecteur ou du joueur, il n'y a pas une vraie différence entre le roman et le jeu sur le fait que dans le roman, au final, cette séduction, elle est déjà un peu acquise par le fait que le média est peut-être plus commun ou que les gens vont venir vers un roman de SF ou de fantasy parce qu'ils cherchent ça, alors que dans le jeu, peut-être, il y a une, ce que tu disais tout à l'heure, une non-démarcation volontaire pour essayer de reproduire ce modèle-là ou...
Je pense plutôt, est-ce que le problème dans le jeu vidéo, c'est pas que le joueur, donc l'équivalent du lecteur, il veut avoir la main tout le temps. En fait, il veut jouer tout le temps. Lui, ce qu'il veut quand il achète un jeu, il veut jouer. Il veut pas qu'on lui raconte une histoire, il veut pas qu'on lui montre un... Il faut le faire sans qu'il s'en aperçoive, en quelque sorte. Il faut lui faire découvrir des choses sans jamais l'ennuyer. Il faut toujours lui laisser l'impression que c'est lui qui est aux manettes. Et ce qui n'est pas le cas, je pense que quand quelqu'un achète un livre et qu'il commence à lire un roman, il accepte plus facilement de se laisser mener par l'auteur et de rentrer dans son monde, de faire cet effort-là un peu. Alors que dans un jeu vidéo, non, c'est le joueur le chef. Hein.
Mais non, en fait, le vrai problème, il n'existerait pas si on donnait au joueur les capacités de traduire son intention. Et c'est là la vraie difficulté. Le joueur, il veut tout le temps jouer, mais il reste dans le domaine de l'action, c'est-à-dire qu'il peut faire que ce qu'on lui laisse faire. Il peut taper sur machin ou taper sur truc. Il n'a pas le choix de monter une baraque où il vend des pommes. Et un jeu qui permettrait de faire des variations aussi extrêmes, mais qui permettrait de dire hey, « je fais ça parce que ou je fais tel choix », ça serait un jeu totalement différent, mais c'est super dur à faire.
Oui, mais même avant ça, est-ce que le problème, c'est pas que par exemple quelqu'un qui va lire Conan, il va parler de Conan, quelqu'un qui va jouer à un jeu vidéo Conan, il va dire moi, c'est lui en mais fait, le, c'est plus Conan,
le cas
c'est lui-même.
C'est présenté avec Conan Online en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que tout le monde, ou même avec Star Wars, vous tous jouez des Jedi quoi. Mais à quel moment l'expérience du joueur dans ce monde dépasse la figure emblématique de ce monde, ouais, en fait.
C'est pas très intéressant de jouer Conan, je sais pas.
Ben non, bien sûr que non.
Parce que de toute façon, Conan, c'est Conan. On a envie d'être surpris, on a envie d'être dépassé par ce modèle. Et c'est...
Totalement.
Je veux dire, le truc du roman, c'est là, hein, c'est justement l'absence de subjectivité. C'est-à-dire qu'on sera jamais les personnages, même s'ils parlent à la première personne, c'est un artifice littéraire. En réalité, ils font ce qu'ils veulent et on sait pas ce qu'ils vont faire. Et généralement, on va être surpris. Le jeu vidéo, ça peut aussi être la fatigue d'être soi, quoi. Parce que, je veux dire, voilà, vous incarnez quelqu'un, mais comme le disait Sven, vous êtes avant tout quand même le joueur, et c'est quand même vous qui allez...
Mais là, c'est parce que vous parlez beaucoup de MMO, j'ai l'impression. Alors que si on prend par exemple un God of War ou un jeu comme ça, là, on a quand même plus un personnage qui est différent de soi-même. Mais quand même, dès qu'on commence à jouer, c'est moi, quoi. Et on oublie que c'est le personnage qu'on a vu dans la cinématique.
God of War, enfin Kratos, c'est pas Link et c'est pas Mario. On ne sait rien de Mario, on ne sait rien de Link.
On sait rien de Kratos, quasiment pas, sauf qu'il se tape des meufs, quoi. C'est tout, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ça. La psychologie du personnage, elle va pas plus loin, quoi. Quelle est la psychologie de Link? À part la psychologie, à part le fait que ce soit un véhicule de couleur, un psychisme identifiable de manière colorée, d'une fonction de l'enfance peut-être, avec un bonnet, quoi.
Mais c'est justement parce que le joueur veut que ce soit lui, en fait. Il veut pas qu'on lui présente un personnage extérieur.
Ah, totalement. Ouais, bien sûr.
Et donc, sinon, d'un point de vue aussi création, est-ce qu'il n'y a pas la différence du coup entre jeux vidéo et roman sur ce point-là, cette notion d'auteur? Est-ce que quand on écrit un livre, on pense réellement aussi souvent à comment il va être appréhendé par les lecteurs que quand on crée un jeu vidéo, auquel cas on est souvent contraint par la problématique d'avoir déjà une équipe, le co-authorship dont tu parlais tout à l'heure, Stéphane, et puis de nos jours, l'industrie du jeu vidéo, mais comme le cinéma, ça se rapproche du cinéma dans la démesure des moyens qui sont mis en place pour faire un jeu, et du coup, on a peut-être plus de contraintes à ce niveau-là, et du coup, peut-être moins de possibilités d'égoïsme quand on est écrivain et qu'on peut peut-être écrire un peu plus pour soi ou l'histoire qu'on a envie, quoi.
Le roman, déjà, on est tout seul, donc c'est une activité assez narcissique. On est à un endroit, le lecteur est à un autre endroit, et au milieu, il y a cette construction intellectuelle pure qui est l'histoire, quoi. Et on peut pousser le curseur plus ou moins vers le lecteur, mais par des artifices qui seront toujours littéraires, c'est-à-dire... est-ce que je vais écrire simplement? Est-ce que je considère qu'une histoire est là uniquement pour divertir le lecteur? Ou est-ce qu'elle peut le mettre mal à l'aise? Est-ce que je peux prendre le risque de perdre mon lecteur? Est-ce que je suis content s'il éprouve juste d'autres émotions qu'un contentement béat et l'envie de connaître la suite? Mais la position par rapport au lecteur, par rapport à la construction de roman, elle est à peu près toujours la même. C'est toujours le même vocabulaire. À mon sens, il y a une grande... La variété est évidemment infiniment riche, quoi. C'est le style, c'est plein de choses intangibles et éminemment subjectives. Mais en même temps, il n'y a pas 40 000 façons, par exemple, de rédiger un roman de fantasy. Alors, il y a un truc assez marrant, c'est qu'on a l'habitude de dire que, et notamment pour la fantasy, une des grandes qualités de l'auteur, c'est la naïveté. C'est-à-dire, est-ce que finalement, c'est resté un gamin, à quel point il croit vraiment à ce qu'il raconte, quoi? Est-ce qu'il est complètement dans son trip et du coup il est dans ce domaine un peu de l'enfance et il va comment dire, c'est la suspension d'incrédulité, hein, de toute façon. Donc il faut communiquer ça au lecteur, il faut lui dire, tu vois, ce monde est réel, alors que on est dans une convention tacite dès le départ. Vous êtes dans le monde du Seigneur des Anneaux, vous savez très bien que le monde n'existe pas. Bon, donc déjà on suspend ça dès le départ, et après qu'est-ce que moi je vais faire comme auteur, comme effort, pour que vous oubliez que vous êtes en train de lire un livre et que voilà, vous soyez plongé complètement dans l'histoire. Il n'y a pas l'écran, il n'y a pas les effets spéciaux, il n'y a pas les images, etc. Je ne dis pas que c'est plus facile ou c'est vraiment différent.
Non, c'est ce que j'allais dire. Parce que peut-être, du coup, cette pseudo-naïveté, on peut peut-être ne pas la mettre en place dans le jeu vidéo à cause des contraintes, justement, techniques d'appréhension du gameplay ou de choses comme ça.
Disons qu'il manque une dimension au jeu vidéo actuellement. Et d'une certaine manière, il manque la spécitude, quoi. Il manque le supplément d'âme, en fait, la quatrième dimension. On se souvient toujours mieux de ce qu'on croit que de ce qu'on voit, en fait. Donc un jeu vidéo qui est bien fait, c'est pas forcément quelque chose auquel on va croire, d'accord? C'est pas forcément un monde auquel on va croire. Pour croire à un monde, il faut que ce monde, il soit intègre, il faut qu'il ait une intégrité interne. Donc le mécanisme d'écriture du roman, de construction d'univers d'un roman quel qu'il soit, il doit fonctionner aussi en jeu vidéo, il est obligatoirement là, quoi. Mais ce qui est pas le cas dans la plupart des grosses productions de jeux vidéo aujourd'hui, qui sont des standards visuels. Je vais prendre juste un exemple à la con, mais en SF, il ne s'est rien passé depuis Cameron, quoi. En jeu vidéo, rien. aujourd'hui, oh, c'est un super jeu de SF. Alors on va me citer Vanquish, on va me citer Dead Space. Mais c'est les mêmes jeux, c'est les mêmes univers, c'est les mêmes constructions, ce sont les mêmes archétypes, c'est la même chose en fait. Quoi. Donc on n'y croit pas plus à ces univers. On y croit parce qu'on agit dedans. Voilà. Donc comment est-ce que nous, avec les contraintes qu'on a en code, en termes, en temps de production, en collaboration, parce que c'est des équipes énormes, quoi, je veux dire, c'est super tendu, avec des égos énormes. Pourquoi des égos énormes? Parce que c'est un médium qui est jeune et que ces gens sont, les gens qui le font sont nés avec le médium. Donc ils se sont, il est à eux ce médium. Ils ont raison, ils savent comment il faut faire. Quoi. Donc on a un ego qui est démesuré. Donc on a des créations collectives avec des égos démesurés qu'on ne peut régler qu'avec des fonctions archétypales. On est obligé. Bon, et vous voyez le vaisseau dans Aliens? Ouais, bah c'est ça, ouais, d'accord, on a tous vu Aliens, on est d'accord. On n'a pas besoin d'aller chercher. Comment est-ce que vous avez imaginé le vaisseau dans le roman de Marco? Non, parce que tout le monde va avoir une idée différente. Donc on est obligé d'avoir comme ça des espèces de grosses masses d'informations concrètes, solides, et qui font que le jeu vidéo ne peut pas accéder à cette dimension supplémentaire qui est la dimension de l'interprétation.
Mais si je puis me permettre, tu as totalement tort. Non. c'est très dur d'aller au-delà de Cameron. C'est très dur d'aller au-delà de Cameron parce qu'on ne peut pas. Non, non, mais j'ai envie. Hein. J'ai passé quelque chose comme 6 mois à bosser sur un concept de jeu de SF dans lequel le protagoniste avait des pouvoirs de nanotechnologie. Et c'était super dur. Non pas pour faire les pouvoirs, parce que voilà, je lis de la SF et je savais de quoi parler, mais pour les représenter, pour que ça soit pas des sorts, pour que ce soit pas de la magie, pour que ça soit de la science, tu vois. Et très rapidement, tu te retrouves à balancer des bombes qui ont des effets un peu magiques.
Un Dark Online, quoi.
Voilà, et voilà, avec des shields ou n'importe quoi. Parce que c'est un vrai problème de faire passer un concept dans l'action, tu vois, de faire du joueur à la fois l'acteur, le co-auteur et le type qui va découvrir, parce qu'il n'a pas cette super compétence, il ne va pas comprendre, et donc tu passes un temps immense à expliquer de quoi tu parles. Et est-ce que ce temps, il ne serait pas... La plupart des équipes pensent que ce temps, il serait mieux à faire un super combat contre un gros boss, un gros robot... ou un gros combat spatial, parce qu'on sait que ça marche. Et encore, je recite Portal, mais parce que c'est vraiment l'exception, c'est que le jeu sait que ça. C'est-à-dire que, on va vous parler d'un truc qui n'existe pas, et on va vous passer quelque chose comme 5 heures à vous l'expliquer.
Tu vois que c'est possible d'aller au-delà de Cameron.
Oui, bien sûr, c'est super dur. C'est
super dur, et c'est vrai qu'en plus, il faut des business models à côté qui soient à intégrer, parce que Portal, c'est pas vendu de la manière dont les autres jeux se vendent, quoi.
Ouais, bien sûr. Et donc, ouais. Du coup, par rapport à ce que tu disais, David, sur l'utilisation d'archétypes, en fait, pour se faire accepter, donc ça rejoint un peu la problématique d'acceptation par le joueur. On utilise effectivement des archétypes. Tout à l'heure, on parlait de mécaniques de gameplay de très simples, de touches utilisées qui sont toujours les mêmes, etc. David à l'instant parlait de références visuelles à d'autres médias, donc notamment au cinéma. Est-ce que par exemple au niveau de l'écriture du roman on a cette même alors soit est-ce que c'est une tentation, est-ce que c'est une volonté d'utiliser des archétypes pour se faire entendre, pour facilement décrire son univers, ou est-ce que ça peut arriver de manière moins consciente, et est-ce que c'est juste le produit d'une aspiration un peu diffuse et qu'on retranscrit parce que c'est comme ça qu'on a construit son imaginaire à soi?
Je pense que, enfin, pour revenir sur les problèmes de gameplay, et je pense justement que comme en littérature, on n'a pas besoin de la participation du lecteur, on peut forcément se permettre des nouveautés, des innovations plus ambitieuses, quoi. Parce que dans le jeu vidéo, forcément, si par exemple tu parlais de l'exemple des nanotechnologies là, si justement tu veux pas rentrer dans le gameplay standard des sorts, des bombes et tout ça, si tu veux présenter la nouveauté, la créativité de ton monde par une créativité en termes de gameplay, forcément il faut que le joueur s'approprie, donc t'es obligé de lui apprendre, quoi. C'est pas simplement lui raconter, c'est lui apprendre, et c'est plus dur parce que là il va y avoir des essais-erreurs et des choses qui vont le frustrer, qui va faire qu'il va peut-être ce qui à mon avis n'existe pas en littérature, parce qu'à moins que ce soit vraiment des innovations de style, des choses qui vont rendre le livre difficile à lire, mais Mais en fait, ça serait peut-être ça l'équivalent d'ailleurs. Une innovation de gameplay, ce serait peut-être une innovation de style. Quoi. C'est faire vraiment un style tellement novateur que ça demande un effort au lecteur.
Il y a des bouquins de SF qui sont super durs à lire. Parce qu'ils sont super techniques. Là, je suis en train de lire. Il y a Peter Watts là, qui est à ce festival et je lis Blindside. Il faut s'accrocher hein, parce que c'est super technique. Ça parle de concepts qu'il faut. Bah, justement, moi j'ai confiance en Peter Watts. Quelque part, ça va faire sens dans le futur.
C'est de la hard science. C'est une petite partie de la science-fiction.
C'est vrai, mais néanmoins.
En fantasy, la question des archétypes, on voit bien comment George Lucas a fait Star Wars. Les archétypes sont assez présents, et qu'on le veuille ou non, je parle de la fantasy pure. À mon sens, la SF, c'est vraiment beaucoup plus vaste. Quand on regarde les trucs anglo-saxons qui sortent régulièrement, on n'est pas obligé de les traduire non plus, hein, mais c'est quand même assez souvent la même chose, quoi. Or, alors il y a l'ombre tutélaire du Seigneur des Anneaux ou de Conan ou de Elric ou je sais pas quoi qui plane sur les auteurs, ce qui fait qu'en France il y a un phénomène assez marrant, c'est que les gens commencent à écrire de la fantasy et ça commence à marcher. On leur dit ouais super, ils disent ouais non je vais faire autre chose là c'est bon maintenant, donc ils font du polar ou des trucs comme ça. Et donc, parce qu'ils sont prisonniers de leur propre schéma. Dernièrement, peut-être les bouquins, je reste toujours dans la fantasy, hein, en France, qui ont réussi à s'affranchir de ça, c'est par le style, c'est vraiment par la patte de l'auteur. Et là, peut-être qu'il y a aussi une différence par rapport aux jeux vidéo, c'est que on peut vraiment... alors, il y a quelques génies du jeu vidéo dont on peut peut-être reconnaître les créations comme ça. Je m'y connais pas assez pour le dire, mais je suppose peut-être, non ?
Il y en a très peu. Et encore, ils sont même pas créateurs, en fait. Hein.
Prenez la Horde du Contrevent de Damasio. Voilà, le bouquin, il est unique. On voit très bien qu'il y a un parti pris narratif qui se retrouve nulle part ailleurs. Ou plus proche de nous, vous prenez... Gagner la guerre de Jaworski là au mouton électrique, c'est pareil. Il y a un parti pris stylistique. Lui, peut-être ce qu'il raconte, c'est peut-être moins, c'est même pas d'ailleurs forcément déliant. C'est vraiment la façon dont il raconte. Donc vous pouvez raconter l'histoire la plus débile en fantasy. Si vous commencez à écrire comme à la recherche du temps perdu, ça va être très bizarre et ça n'aura jamais été fait, quoi.
Ces parties prises stylistiques existent dans le jeu vidéo aujourd'hui, mais ils n'existent pas à un niveau industriel du jeu vidéo. Ils existent à un niveau indépendant du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on a des créateurs indépendants qui vont faire leurs propres pixels, qui vont faire leur propre gameplay, qui vont faire leur propre code et qui vont trouver des solutions, eux, en faisant des petits jeux qui sont souvent d'une poésie implacable et d'une beauté sidérant. Il y a des trucs sidérants en indépendant, quoi. Et aujourd'hui, on trouve des modèles pour que les jeux indépendants puissent sortir. Il y a pas mal de compétitions, il y a toutes les plateformes mobiles, toutes les plateformes de téléchargement. Donc, finalement, on est en train de trouver un style. Maintenant, est-ce que le jeu vidéo est forcément ce qu'on appelle du triple A ? C'est-à-dire, le triple A en jeu vidéo, c'est le gros jeu Sony qui sort, qui se vend des millions. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est ça, le jeu vidéo. C'est que du triple A, et que finalement, un petit jeu vidéo en 3 pixels qui va nous faire chialer parce que c'est tellement beau et c'est tellement ridicule de beauté, que voilà, c'est pas vraiment, on est dans l'anecdote, quoi. On n'est pas vraiment, on est dans le gars qui est tout seul chez lui, qui code son truc, et on n'est pas vraiment. Mais c'est parce qu'on a vendu le jeu vidéo comme autre chose que le jeu vidéo, quoi. Parce qu'on a vendu le jeu vidéo comme étant une narration qui n'est pas celle du jeu vidéo, comme un produit qui n'est pas celui du jeu vidéo, et que tout est régi par des normes mercantiles ultra solides qu'il est quasiment impossible à défaire aujourd'hui, y compris dans la tête des gens, quoi, et culturellement. Et ça, c'est terrible, parce que c'est une culture qui nous appartient. Moi, je suis né avec, quoi. C'est un truc que je connais intimement, quoi. Donc, c'est terrifiant de voir ça. Et ce qui est d'autant plus terrifiant, c'est de voir des gens dans ces productions-là qui essayent de se dédouaner de le faire. C'est terrible. J'ai croisé un développeur de Dead Space 2 qui s'est excusé d'avoir fait Dead Space 2 devant moi, quoi. Il dit, ah, je suis désolé, c'est un bon jeu, hein, mais je suis quand même désolé, je vous ai trahi, quoi. De quoi tu parles ? Trahi, quoi. Ah ouais, non, mais c'est plus du jeu vidéo. Et pourtant, c'est ça le jeu vidéo pour les gens. Donc, on est dans des. On ne sait même pas de quoi on parle, en fait, quoi. Je veux dire, le problème, il est là, quoi.
Ce qui est très marrant, c'est que les jeux indépendants, qui sont justement les plus touchants, que ce soit intellectuellement ou émotionnellement, c'est ceux qui s'affranchissent de tout ce dont on parle jusqu'à présent, c'est-à-dire de faire le tutoriel, de te mettre dans une histoire qui va être épique, de t'expliquer les règles du monde avant que tu les découvres toi-même. Et ça change tout. Bon, il y a des tas de raisons. Les indépendants, ils n'ont pas d'argent, donc ils ne vont pas faire une belle cinématique pour t'expliquer leur histoire. Ils n'ont probablement pas le temps de faire tous les trucs autour. Et parfois, ils ont juste pas envie. Ils veulent juste mettre une idée et l'exprimer en jeu.
Juste pour illustrer ce propos, il y a un jeu de Emily Short qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Savoir-faire. Alors, s'il y a, bon, c'est old school, hein, ce que je vous dis, hein, c'est du texte, c'est de l'aventure textuelle pure et dure, get machin, regardez, bon, bref. Et Savoir-faire, c'est un monde de fantaisie absolument sublime, où les choses sont en relation les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'on peut lier des choses entre elles. C'est-à-dire que je peux lier ce bouquin et je peux lier cette bouteille d'eau. Et en les liant, il va se passer quelque chose. Le concept du jeu, c'est de devenir un expert à lier des choses. Donc on est dans un monde, il y a des choses, et on va les lier, et on va faire des expériences pour les lier, pour voir comment le monde va se transformer en fonction de la manière dont on les lit. Voilà. Il y a un tutoriel. Le tutoriel, c'est le jeu. Le jeu, c'est le tutoriel. C'est un jeu, une fois qu'on a appris le truc, on n'y joue plus. Donc... Et c'est un grand moment de fantaisie, ce jeu, quoi. C'est extraordinaire. Moi, je suis arrivé à la fin où, après avoir lié des trucs complètement stupides, on se retrouve avec une dernière épreuve où on doit lier le monde entier à lui-même, quoi. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai jamais eu un truc pareil, quoi. Et on le fait nous. Et le personnage qu'on joue n'a aucune importance. C'est nous. C'est moi. Donc, c'est pour ça que je pense. Bon, alors, ce jeu, il a dû être joué par 150 personnes autour du monde, allez, en 10 ans, quoi. En tout cas, c'est. Mais il existe, ce jeu. Il est gratuit, en plus.
Mais justement, est-ce que le problème, c'est pas qu'en fait, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si tu veux faire le jeu dont tu rêves, c'est exactement pareil que si tu veux écrire le livre dont tu rêves ou faire le film dont tu rêves. À partir du moment où tu veux gagner de l'argent avec, c'est là qu'arrive le problème. Et c'est là que tu vas devoir changer tes rêves pour coller aux rêves des autres. Mais sinon, en fait, le problème du tutoriel ou les problèmes, toutes ces choses-là, comme tu le dis, si tu fais le jeu que tu as envie de faire, il y aura toujours une vingtaine de personnes à qui ça va plaire et tu seras très satisfait d'avoir fait ça. Et tant que tu ne veux pas le vendre, tant que tu ne veux pas devenir un triple A.
Est-ce que toi, tu ne penses pas qu'il faut prendre les risques dont tu parles, les risques narratifs ou casser complètement les trucs? Est-ce qu'il ne faut pas que quelqu'un un jour ait les couilles de faire ça à un niveau industriel et mondial? Parce qu'on a l'impression que partout. C'est-à-dire, quand vous regardez les trucs qui marchent, il y a des choses qui marchent, on vous dit il faut surtout pas faire ça. Je reparle de la Horde du Contrevent, hein, qui est un bouquin qui s'est vendu à 70 000 exemplaires. Il y a 30 personnages principaux qui parlent à tour de rôle. Je veux dire, normalement, un éditeur, il dit, mais déjà, ça, tu oublies totalement, quoi. Après, le bouquin, il fait 800 pages. Il y a des palindromes et tout. Enfin, c'est un, normalement, cauchemar d'éditeur. Sauf qu'à un moment, il y a un éditeur qui dit, ça, si, on va le faire. Et bim, on en vend 70 000. C'est-à-dire, à peu près plus que tous les autres bouquins de fantasy de l'année francophone réunis, quoi. Donc, il y a un risque qui est pris. Je sais pas, tu prends une série comme Six Feet Under où pendant 3 saisons il se passe rien, et ben les gens ils en parlent encore 10 ans après. Ou tu prends même un truc con, mais on va vous dire il faut pas faire mourir les gens, les gentils à la fin du film. Vous prenez le truc de Roland Emmerich, l'enfant il s'en sort, le chien il s'en sort, la fille jolie est divorcée, elle va se mettre avec l'autre mec qui est divorcé, etc. C'est toujours pareil. Dans Titanic, il y a DiCaprio, il est beau, c'est merveilleux, ça. Oh, il meurt à la fin. Et ça n'empêche pas les gens d'aller le voir. Donc est-ce qu'à un moment, il ne faut pas... est-ce qu'on ne pense pas, mais c'est pareil dans tous les domaines culturels, est-ce qu'on n'est pas prisonnier de schémas en disant, ben non, les gens accepteront jamais ça? Est-ce qu'ils n'ont pas envie d'être violentés, surpris?
Mais c'est ce que tu dis. Il faut des gens pour prendre le risque. Et le risque, ils le prennent avec leur argent. Et donc, la plupart du temps, c'est non. Et pour répondre à ta question, moi, il y a des jeux que j'ai envie de faire, que je ne peux pas faire parce qu'ils demandent de l'argent. Je pense qu'il y a des tas de solutions aux problèmes récurrents de la narration interactive, c'est-à-dire vraiment participer à la création d'une histoire et pas juste la vivre, mais ça demande énormément d'argent pour le développer, et donc bon, pour l'instant personne ne veut prendre.
Et est-ce que, enfin je dis n'importe quoi, mais les systèmes actuellement qu'il y a de financement en ligne, de projets, autant pour la musique ou pour les bouquins, je ne vois pas très bien à quoi ça sert, mais pour ce genre de choses, ouais. Tu dis 30 millions de gamers, voilà les mecs, je vais faire un truc qui n'a jamais été fait. Vous mettez $5 et on voit ce qui se passe.
Alors, ça existe. Ça existe et ça marche parfois. Il y a un studio qui s'appelle Wildfire, par exemple, qui fait ça. Ils font leur jeu et ils bloguent leur développement et ils prennent des donations, etc. Le problème, c'est que ça dépend de la personnalité des créateurs. Ils doivent devenir des vendeurs. Tu dois te vendre et vendre ton projet avant de le faire. Et il y a des tas de gens qui ne peuvent pas le faire.
Qui veut donner de l'argent à David pour qu'il fasse.
Après, il y a un autre. Non, mais après, il y a d'autres. Non, mais c'est très intéressant parce qu'il y a d'autres modèles qui sont en train de se développer et qui sont vraiment étonnants. Je prends Minecraft. Il y a des joueurs de Minecraft là ? Un. Alors, moi, il y en a un. C'est déjà ça. Bon, Minecraft, c'est le jeu. C'est extraordinaire. Il pourra vous en parler si vous voulez. Minecraft, comment ça s'est fait ? Le gars, il était tout seul. Il a fait son jeu. Voilà. Et au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il y avait des centaines de milliers de gens qui jouaient à son jeu, quoi. Et ben maintenant, il est riche, le gars, quoi. Et ils sont quatre dans sa boîte. Ils ont acheté un... Et ça vaut pour plein de jeux. Transformice, que je connais bien, puisqu'il est à la base originaire d'un endroit que je connais bien. Transformice, c'est des gens qui ont fait ça avec Flash en trois coups de clic. Ils ont balancé ça online. C'était gratuit, c'était partagé, parce que ça, c'est très important. On a envie de se l'approprier. C'est la fonction du geek, elle est aussi là, dans s'approprier le truc. C'est moi qui pisse dessus en premier, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire, c'est très important, ça. Et ben, Transformice, ils sont à je sais pas combien de dizaines de milliers de joueurs, et c'est gratuit. Il suffit de trouver un business model derrière qui arrive et qui dit, il y a les items molles, il y a les machins, les trucs, on peut trouver des solutions. Donc, c'est possible, mais il y a un investissement de temps, de personnes sur un jeu vidéo qui n'existe pas sur un roman. Je veux dire, moi demain j'ai envie de faire un jeu de rôle avec un monde ouvert, avec plein de quêtes qui pop dans tous les sens et compagnie. Le nombre de tests qu'il va falloir que je fasse pour que ce jeu il plante pas, ça va me coûter ma maison, quoi. C'est un truc de ouf, quoi.
T'as une grande maison, là.
J'ai pas de maison, je prends mon chat, tu vois. Donc c'est juste que voilà, je pense que ça peut arriver et ça va arriver. Il y a Kickstarter sur le net en ce moment, il y a plein de gens qui sont en train de dire donnez-moi $2 et puis je fais mon jeu, comme tu l'as très bien dit, et ça marche, et c'est en train d'arriver, c'est souhaitable. Voilà, peut-être qu'on est tout simplement au début et que, en fait, comme tu disais très bien, il n'y a pas de problème, les choses sont en train d'arriver, c'est juste que peut-être dans l'esprit des gens, il y a encore cette espèce de penser que le jeu vidéo est débile et parce qu'il n'appelle pas à la fonction de l'invisible, en fait. Et que c'est à nous de dire, non, mais les gars, il existe l'invisible, c'est juste qu'on n'a pas les moyens et qu'il faut aller le chercher dans des endroits qui sont low-tech et low-cost.
Voilà. Oui, et puis le problème, c'est quand tu veux en vivre, quoi. C'est comme pour l'écriture. C'est quand, sauf que la différence, c'est que souvent, dans le jeu vidéo, tu as la responsabilité de 60 personnes. Et c'est non seulement toi, tu veux en vivre, mais c'est les 50 gus qui sont avec toi qui doivent en vivre aussi.
Tu peux faire un jeu décent à 15 personnes.
Mais du coup, est-ce que, pour revenir à la problématique d'acquisition d'audience et de problème de confiance du lecteur ou du joueur, est-ce que tout ça, c'est pas juste une sorte de complexe qu'aurait le jeu vidéo ou qu'aurait même la SF d'avoir l'impression d'avoir une audience finalement trop restreinte, et est-ce que c'est pas la culture qui est en train de, enfin la culture de notre société actuellement et son évolution avec peut-être un effet corollaire de l'aspect mercantile qui réussit lui à vendre le jeu vidéo et du coup à introduire le jeu vidéo partout, est-ce que ça introduit pas aussi le jeu vidéo partout et la SF partout et faire en sorte que après des gens sur des projets plus modestes ou sur des choses plus personnelles ou avec des jeux qui n'ont pas de tutoriel ou des romans écrits de manière un peu plus originale, est-ce que cette imprégnation culturelle du jeu et de la SF ne va pas faciliter les créations qui vont venir plus tard?
En termes de romans, l'imprégnation culturelle de la SF et de la fantasy, elle est totale. On n'a jamais atteint ce niveau d'imprégnation à ma connaissance, enfin, et notamment grâce au cinéma. C'est-à-dire que il y a 10 millions de gens qui sont allés voir Le Seigneur des Anneaux en France. Enfin, le premier, vous mettez Harry Potter, etc. Ma mère est allée voir Le Seigneur des Anneaux, quoi. Donc à un moment, à part les nourrissons ou les vieillards, tout le monde connaît, vous prenez des trucs comme Avatar, etc. Tout le monde connaît la SF et la fantasy. C'est pas pour ça qu'après les gens vont aller dans la librairie et acheter un autre bouquin que le truc qu'ils ont vu adapté. Voilà. Pour moi, c'est tout simplement, alors là, c'est carrément un autre débat et je pense que c'est un problème de marché, c'est un problème économique, c'est un problème de trop de livres, de rayons SF mal foutus, j'en sais, enfin, je ne suis pas libraire, ou, voilà, mais c'est un problème d'accès. Combien de fois, moi, je vais donner des bouquins à des genre, je ne sais pas quoi, Voilà, mon père vient me dire, ah bah j'ai un pote, il voudrait bien lire ce que tu fais, il connaît rien, etc. On lui file un bouquin de fantasy pas trop compliqué, il dit, ah ouais, c'est vachement bien, etc. D'accord, donc tu as 55 ans, tu es conseiller fiscal, et en fait tu aimes la fantasy, mais juste tu le savais pas, quoi. Concrètement, il y a énormément de gens qui sont prêts à se laisser imprégner par ça, c'est juste que ils ont pas le temps, ils savent pas qu'ils aiment, ils ont, voilà, mais je pense plus qu'il y ait un problème de... d'imprégnation culturelle.
Et donc du coup Stéphane, est-ce que la problématique d'acquisition d'appropriation du jeu n'est pas qu'un problème qui n'est que transitoire et générationnel, qui n'est que parce que maintenant actuellement il y a encore des gens qui ne sont pas nés avec le jeu et que d'ici quelques générations ça n'existera juste plus cette problématique?
Oui, c'est ce que je pense aussi. Particulièrement, enfin je veux dire, qui aurait pu penser que Inception ça soit un film que les gens captent, tu vois, ou il y a quelques années de ça, Matrix, ça fait 10 ans, 15 ans, 10 ans. C'est, ouais, bien sûr, notre culture intègre tellement de thèmes et de mèmes science-fictionnels que c'est plus un problème. Et en effet, on se pose la question parce que ouais, on est dépassé, quoi. On est dans la dernière génération de ceux qui font les jeux avant que tout le monde fasse des jeux. Et donc, parce que maintenant les outils sont accessibles par tout le monde, d'hyper bonne qualité, et le mouvement que décrit David, il va aller en s'amplifiant et ça va être un vrai mouvement. Mais l'ASF d'ailleurs a parlé de ça. Si tu regardes Werner Winch, son dernier bouquin, Rambozen, sur justement les cultures créées par les jeunes qui s'approprient cette connaissance. Ouais, on y va, mais c'est lent, c'est chiant. On voudrait bien que ça se passe maintenant.
Est-ce que pour conclure, il y a des gens qui auraient des questions à poser aux invités qui sont là présents? Non, pas trop apparemment. Personne ne veut vous parler, je suis désolé. Est-ce que l'un d'entre vous veut conclure sur cette thématique d'appropriation du lecteur et du joueur?
On va boire un coup. Joue à Minecraft.
Stéphane, le mot de la fin, rapidement.
Je croyais l'avoir dit. On y va.
D'accord.
Et je suis vraiment optimiste quant à... c'est-à-dire, en effet, la SF et le jeu vidéo, maintenant, ils sont partout. Donc
bientôt, tout le monde jouera, ouais. Et tout le monde lira de la SF.
Tout le monde sera dans le ghetto. Ouais, ça.
Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous.